VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 28 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord, les titres. En Guinée, l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés envoyés en prison hier, avant leur procès à partir de ce mercredi pour le massacre du 28 septembre 2009. Au Burkina Faso, au moins 11 soldats tués et 50 civils portés disparus dans l'attaque de lundi dans le nord. Yacouba Ouédraogo a parlé à un témoin. En Côte d'Ivoire, le ministre français de l'Intérieur dit son pays indigné par une prise d'otage en parlant des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. En République démocratique du Congo, Goma paralysée pour la deuxième journée consécutive et Bukavu au ralenti pour appeler les autorités à déloger de Bunagana les rebelles du M23. Au Kenya, le président William Ruto, élu le mois dernier, nomme son gouvernement. La Russie et les autorités des régions qu'elle occupe en Ukraine ont affirmé hier que le oui est largement en tête au référendum. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En Guinée, l'ex-président Moussa Dadis Camara et plusieurs de ses co-accusés ont été envoyés en prison hier mardi. Leur procès pour le massacre du 28 septembre 2009 commence aujourd'hui. Nanit Talani.
La défense affirme que le procureur a envoyé en prison 6 accusés où ils seront probablement retenus jusqu'à la fin du procès. Maître Salifou Beyavogui assimile cette mesure à une violation des droits de ses clients. Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens officiels militaires et gouvernementaux doivent répondre à partir de ce mercredi de leurs responsabilités présumées dans les événements du 28 septembre 2009 qui ont entraîné la mort d'au moins 150 personnes. Il était arrivé au pouvoir en 2008 par un putsch avant de se proclamer président. Il a échappé de peu à la mort après avoir reçu plusieurs balles dans la tête. Soigné au Maroc, depuis il vivait en exil au Burkina Faso. Il est rentré le week-end dernier à Conakry pour, selon lui, dire sa part de vérité devant le tribunal et laver son honneur.
Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé mardi lors d'une visite à Abidjan que Paris était indigné par le sort des 46 soldats ivoiriens emprisonnés au Mali depuis début juillet, qualifiant la situation de prise d'otage. Monsieur Darmanin a été reçu par le président Alassane Ouattara. La question des 46 soldats qualifiés de mercenaires et écroués par Bamako nourrit une vive querelle diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les Ivoiriens assurent que ces soldats devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali et ils réclament, comme l'ONU, leur libération immédiate. En République démocratique du Congo, les activités ont été paralysées hier mardi pour le deuxième jour consécutif dans la ville de Goma et ont tourné au ralenti dans celle de Bukavu. La société civile dans ces deux villes de l'Est dénonce l'occupation de la localité de Bunagana par les rebelles du M23. Le point avec Abdourahmane Dia.
Comme la veille, les tenanciers des boutiques, les vendeurs des marchés et autres acteurs économiques du secteur privé n'ont pas ouvert leurs portes hier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où les organisations de la société civile avaient appelé à 2 journées de ville morte. Quelques personnes ont tenté de manifester avant d'être rapidement dispersées par les forces de l'ordre. De l'autre côté du lac Kivu, à Bukavu, capitale de la province voisine du sud Kivu, les activités ont tourné au ralenti, la circulation était fluide, tandis que les écoles ont renvoyé chez eux les élèves qui s'étaient présentés. Dans un communiqué, le bureau urbain de la société civile Force Vive avait demandé à la population de Bukavu d'observer une grève générale mardi en solidarité avec la population de Goma. Les associations appellent les autorités à déloger les M23 de Bunagana, occupés par les rebelles depuis plus de 100 jours. Les associations de la société civile appellent aussi les autorités à mettre fin à l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri pour ce qu'elles appellent des résultats mitigés.
À São Tomé et Príncipe, l'opposition de centre-droit, l'Action indépendante démocratique, a remporté en voix les législatives de dimanche, a annoncé mardi la commission électorale, mais sans livrer la répartition des sièges qui déterminera si la coalition de centre-gauche cédera ou non le pouvoir. Le mouvement de libération de São Tomé et Príncipe, parti social-démocrate du premier ministre Jorge Bomzesi, est arrivé en seconde position. São Tomé et Príncipe, un petit archipel habitué aux alternances au pouvoir, est considéré comme un modèle de démocratie sur le continent. Le nouveau président kényan, William Ruto, élu le mois dernier, a annoncé hier la composition de son gouvernement. Il a nommé au ministère des Finances un ancien gouverneur de la Banque centrale, John Linden.
Monsieur Ruto, 55 ans, qui s'est présenté durant la campagne comme le candidat des débrouillards, a nommé Njuguna Ndungu, ancien gouverneur de la Banque centrale du Kenya, au poste de ministre des Finances. Avec l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Est, le Kenya fait face à d'importantes difficultés, à commencer par l'explosion des prix des carburants et des produits de première nécessité. Abraham Kidure Kindiki, qui a défendu M. Ruto devant la Cour suprême après les recours déposés par l'opposant Raila Odinga, a été nommé au ministère de l'Intérieur. Aden Barré Douale prend de son côté les rênes du ministère de la Défense. Si William Ruto s'est engagé durant la campagne à instaurer la parité dans son gouvernement, seules 7 femmes ont été nommées sur un total de 22 ministres.
La Somalie connaît une situation très alarmante après plus de 4 ans de sécheresse qui ont dévasté le bétail dont dépendent de nombreuses personnes. C'est ce qu'a déclaré mardi un haut responsable de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette nation de la Corne de l'Afrique est, selon lui, au bord de la famine pour la deuxième fois en un peu plus d'une décennie, avec 200 000 personnes menacées. Beaucoup de Somaliens meurent déjà probablement de faim, selon l'Organisation mondiale de la santé, les travailleurs humanitaires ne pouvant répondre à tous les besoins.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie et les autorités des régions qu'elle occupe en Ukraine ont affirmé hier que le oui est largement en tête selon de premiers résultats des référendums d'annexion organisés dans 4 régions dans l'est et le sud de l'Ukraine. Le point avec Michel Joseph.
La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme normaux et la mise en œuvre du même scénario qu'en Crimée en 2014, a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, la Russie devrait être exclue de toutes les organisations internationales ou au moins en être suspendue. « Nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion de territoire ukrainien par la Russie », déclare Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, ajoutant que les États-Unis vont prendre de nouvelles et sévères sanctions contre la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, après un entretien avec le président ukrainien, dit que ces référendums fictifs n'ont aucune légitimité. Un dialogue sera nécessaire pour mettre fin à la guerre, mais suppose un rééquilibrage des forces en faveur de l'Ukraine, a estimé hier Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères en visite à Kiev. La Chine, quant à elle, réaffirme que l'intégrité territoriale de tous les pays doit être respectée. Côté russe, Dmitri Medvedev, ancien président, numéro 2 du Conseil de sécurité et alter ego de Poutine, assure que Moscou va défendre par tous les moyens ses nouveaux territoires, y compris avec des armes nucléaires.
Cuba a été plongée dans le noir mardi soir en raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique occasionnés par l'ouragan Ian, qui n'a pas fait de victimes et menace désormais la Floride. L'état d'urgence a été décrété dans tout cet état et les autorités multiplient les préparatifs. Elles ont ordonné des évacuations dans les zones les plus vulnérables situées à proximité de l'océan. Le président Joe Biden, qui a approuvé une aide d'urgence fédérale a déclaré qu'Ian pourrait être un ouragan très violent dont l'impact serait dévastateur et mettrait des vies en danger. Ian succède à l'ouragan Fiona qui a ravagé samedi la côte atlantique du Canada, faisant 3 morts après les Caraïbes la semaine dernière où 7 personnes avaient péri. Le typhon Noru a touché terre au Vietnam mercredi matin, provoquant des coupures de courant dans le centre du pays où des dizaines de milliers d'habitants se sont abrités des vents puissants et des fortes pluies qui ont tué 10 personnes aux Philippines. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
Le Niger a décidé la semaine dernière de suspendre le transit des produits pétroliers destinés au Mali voisin pour des raisons sécuritaires face à la menace des groupes djihadistes. Les produits destinés à la mission des Nations Unies sont toutefois exemptés de cette suspension, selon une note de service de la Direction générale des douanes du Niger, datée du 21 septembre. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique note une contraction des importations de biens de 11,3% au cours des 6 premiers mois de l'année 2022. L'Institut ne donne pas de détails sur les raisons d'une réduction aussi importante, mais selon investiraucameroun.com, cette réalité peut être mise sur le compte de l'explosion du coût du fret et des matières premières sur le marché international en raison de la crise russo-ukrainienne. La Banque centrale du Maroc a relevé mardi son taux directeur de 50 points de base à 2% afin de juguler une forte accélération de l'inflation. Cette hausse a été décidée pour assurer les conditions d'un retour rapide à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix, précise un communiqué de la Banque centrale publié à l'issue de la réunion trimestrielle de son conseil. Elle survient dans un contexte de poussée inflationniste alimentée par la flambée des prix des matières premières au niveau mondial.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football avec la suite des matchs amicaux disputés par les sélections africaines.
Oui, avec un doublé de Rafinha et un pénalty de Neymar, le Brésil a surclassé 5-1 une Tunisie réduite à 10. Les Aigles de Carthage avaient brièvement égalisé par Moutassar Omar Talbi à la 18e minute, mais ont été trop vite plombés par l'exclusion de Dylan Brown à la 42e minute. Un but partout entre le Sénégal et l'Iran, 2-2 entre le Togo et la Guinée équatoriale. Le Cameroun s'est incliné 1-0 devant la Corée du Sud. Défaite 1-0 également du Ghana face au Nicaragua. 0-0 entre le Maroc et le Paraguay. La République démocratique du Congo a battu la Sierra Leone 3-0. L'autre Congo s'est incliné devant la Mauritanie 2-0. La Côte d'Ivoire a battu la Guinée 3-1. Le Burkina Faso a pris le dessus sur les Comores 2-1. Et l'Algérie a dominé le Nigeria sur le même score, 2-1.
John Obi Mikel prend sa retraite.
Le milieu international nigérian, 89 sélections, a annoncé qu'il met fin à sa carrière à 35 ans. Il y a un dicton qui dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour ma carrière de footballeur professionnel, ce jour est arrivé, a écrit John Obi Mikel dans un long message posté sur Instagram. Joueur polyvalent, Obi Mikel a effectué l'essentiel de sa carrière à Chelsea, qu'il a déniché au sein du modeste club norvégien de Lyn Oslo. Chez les Blues, il a disputé 372 matchs entre 2006 et 2017. Ici, il a construit un solide palmarès avec 2 titres de champion d'Angleterre en 2010 et 2015, un sacre en Ligue des champions en 2012 et un autre en Ligue Europa en 2013. Le club de Chelsea a salué sur Twitter les souvenirs partagés avec son ancien joueur en lui souhaitant une bonne retraite. Avec sa sélection nationale, Obi Mikel a été sacré champion d'Afrique en 2013.
En basketball, la FIBA ouvre une enquête après une bagarre entre joueuses maliennes.
Cette bagarre a éclaté lundi, juste après la 4e défaite en 4 matchs du Mali, synonyme d'élimination en poule face à la Serbie 81-68. 2 joueuses, dont Salimatou Kourouma, en sont venues aux mains dans la zone mixte de l'Olympic Park Sport Center, où se croisent médias et joueuses avant d'être séparées par des coéquipiers. La Fédération internationale de basketball a annoncé avoir ouvert une enquête. La FIBA, dont le président Aman Niang est un Malien, soutient qu'elle prendra toute mesure disciplinaire éventuelle une fois que l'enquête sera terminée. Mardi, la meneuse malienne Touti Gandega a indiqué sur son compte Twitter que la sélection tenait à s'excuser auprès du peuple malien et du peuple africain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, au moins 11 soldats ont été tués et 50 civils portés disparus dans une attaque perpétrée lundi par des djihadistes présumés à Gaskindé, dans le nord du pays, selon le gouvernement. C'est un convoi de ravitaillement des populations escorté par un régiment de l'armée à destination de Djibo qui a été pris pour cible dans cette région du Sahel. Yacouba Ouedraogo a joint un témoin de l'attaque qui s'exprime sous anonymat pour des raisons de sécurité.
Nous avons passé trois nuits à Bourzanga. Hier lundi, nous avons repris la route vers Djibo. Arrivé à Gaskindé, à 20 km de Djibo, vers 14 heures, le convoi a fait une escale de quelques minutes. Les gens sont donc descendus des véhicules pour prier. Et lorsque nous avons fini et étions en train de regagner les véhicules, les assaillants ont commencé à tirer de partout. Les forces de l'ordre nous ont alors intimé l'ordre de nous coucher, ce que nous avons fait. Mais les tirs continuaient et certains se sont levés pour commencer à courir dans toutes les directions. C'était alors la débandade. Les forces de sécurité couraient et nous aussi on a suivi. Ils ont incendié au moins une centaine de véhicules, leur contenu avec. Au moment où je vous parle, on voit toujours la fumée qui se dégage du lieu de l'attaque. Entre-temps, au moment de l'attaque, il y a un hélicoptère qui était dans les airs. Nous croyons alors que nous serions sauvés, mais il a fait juste quelques tours et est reparti. On ne l'a plus revu. Des femmes et des enfants ont disparu et on ne sait pas où ils se trouvent. Moi, j'ai fui à pied du lieu de l'attaque jusqu'à Bourzanga. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes dans l'attaque, mais j'ai perdu au moins trois proches qui étaient avec moi dans le convoi. Ils disent qu'il y a eu des blessés que l'hélicoptère a emmenés à Ouagadougou, mais je n'en sais rien parce que je n'ai pas vu et je n'ai pas de nouvelles de blessés. Moi-même, j'ai présentement mal aux pieds. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de tout faire pour nous ramener à Djibo parce que nous avons quitté Djibo le 5 septembre passé et il n'y avait pratiquement rien à manger. Et même si tu as ton argent, il n'y a rien à acheter, pas de maïs ou de mille, rien. Je pense que dans deux ou trois jours, si rien n'est fait, les gens mourront de faim à Djibo. Ce que j'ai à dire à nos autorités, c'est de faire accompagner les convois vers Djibo par des militaires plus expérimentés et bien armés. Il faudra aussi éviter de faire plusieurs jours sur la route, car les terroristes ont des informateurs et ils se préparent en conséquence pour nous attaquer. Lorsque le convoi démarre, tout doit être mis en œuvre pour qu'il arrive à Djibo le même jour.
Un témoin de l'attaque de Gaskindé dans le nord du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, la campagne pour les élections générales de février 2023 s'ouvre aujourd'hui. Des milliers de partisans du candidat à la présidentielle du Parti travailliste, Peter Obi, ont organisé une marche pacifique dans la capitale fédérale. Le point avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Plusieurs centaines de milliers de partisans du mouvement Obidien sont descendus dans la rue d'Abuja pour soutenir le candidat à la présidentielle du parti travailliste Peter Obi avant même le coup d'envoi de la campagne électorale ce mercredi. King David était dans le groupe.
Because of his competency.
À cause de ses compétences, sa gestion transparente, sa crédibilité et tout ce que vous pouvez penser d'un bon dirigeant, M. Obi possède toutes ses qualités. Tous les jeunes Nigérians sont pour Peter Obi. Nous sommes pour Peter Obi.
Pour la présidentielle, les noms de 18 candidats ont été publiés par la Commission nationale électorale indépendante du Nigeria. Les principaux prétendants sont l'ancien gouverneur de Lagos, Ahmed Bola Tinubu, du All Progressives Congress, le parti présidentiel, l'ancien vice-président Atiku Abubakar du PDP, le principal parti d'opposition, et l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Peter Obi, du parti travailliste. Pour Nkiruka Josephine, le candidat du parti travailliste est son homme de confiance.
Nous avons besoin de cet homme. C'est cet homme qui possède tout ce qu'il faut, sans parler même de son éducation. C'est un homme intègre. C'est cet homme qui pourra nettoyer tout le système de ce pays et tout ce que nous vivons présentement. Je ne peux pas être esclave dans mon pays. Et si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas juste pour moi seul, mais aussi pour mes enfants, mes petits-enfants et pour tout le monde ici.
Les acteurs de la société civile se mobilisent pour sensibiliser les populations et s'assurer du bon déroulement de la campagne. Fit Mwadiki du Centre pour la Transparence.
Ce que nous faisons déjà, c'est d'aider à éduquer la population sur le rôle qu'elle doit jouer dans le processus électoral, particulièrement dans cette période électorale, quel rôle elle doit jouer. Quels sont les défis en jeu? La société civile devrait aussi définir un agenda avec les médias. Elle doit aussi pouvoir suivre de près les promesses de campagne faites par les candidats.
La campagne va se dérouler pendant une forte détérioration de la situation de la sécurité dans le pays. Des centaines de personnes ont été victimes de meurtres de masse, de banditisme, de terrorisme, d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs et d'enlèvements. Des inquiétudes que partage Kabiru Adamu, expert en sécurité et fondateur de Beacon Consulting.
C'est une préoccupation légitime. Dans mon agence de sécurité, nous avions récemment publié un rapport pour le mois de juillet dans lequel nous avions documenté comment des acteurs non étatiques menacent les activités de la CENI. Donc, oui, il existe des menaces pour la tenue des élections de 2023.
Les candidats vont sillonner les 36 États du Nigeria pour tenter de convaincre les électeurs pendant les 5 prochains mois. Rendez-vous donc le 25 février 2023 pour savoir qui va succéder au président Muhammadu Buhari qui ne peut se représenter après ses 2 mandats. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'enlisement du conflit ukrainien. Alors que les forces ukrainiennes sont engagées dans une contre-offensive, le président russe Vladimir Poutine mobilise les réservistes et menace de recourir à tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Pendant ce temps, un référendum d'annexion est organisé dans les régions ukrainiennes contrôlées par les troupes russes. Comment analyser la situation militaire sur le terrain et les menaces du président Poutine? Quelle solution au conflit? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans le cadre de notre série sur les travailleuses domestiques, nous nous rendons aujourd'hui au Sénégal. Elles font le linge, la vaisselle, le ménage, elles font la cuisine et gardent les enfants. Bref, elles font presque tout le travail dans les maisons, où elles subissent souvent des traitements dégradants. Au Sénégal, les domestiques, communément appelées bonnes, vivent dans la galère, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Abus sexuels, marginalisation, duperie, voilà les mots auxquels sont confrontées les femmes de ménage au Sénégal. Des mots que Ndjeme affronte depuis près d'une décennie. Trouvée sous l'arbre qui leur sert de quartier général au niveau de Liberté 6 à Dakar, cette dame, originaire de l'intérieur du pays, dit avoir été victime de traitements inhumains.
Même s'il s'agit d'un chien, quand tu sors de chez toi, tu dois au moins lui laisser à manger. Mais soit ils ne le font pas, soit ils demandent de sortir du frigo un repas qui s'y trouve depuis plus d'une semaine pour le manger. Ça, c'est irrespectueux et c'est comme cela qu'on nous traite. Moi, je suis dans le secteur depuis 10 ans et je ne vois pas d'amélioration.
Des actes qui l'ont poussé à revoir à la hausse ses exigences salariales, mais aussi à trier ses futurs employeurs.
Personnellement, j'ai décidé de ne pas travailler pour les célibataires. Je ne travaille que pour les couples mariés. Je travaille 15 jours et l'on me paye mon argent. Au début, j'ai taxé à mes employeurs une somme allant de 50 000 francs à 60 000 francs. Mais maintenant, j'ai augmenté les tarifs. Je prends au minimum 70 000 francs.
Entre la femme de ménage et son employeur se trouvent les agents de placement. Et très souvent, ils sont pointés du doigt par les deux bords quand les soucis éclatent. L'agent de placement Galaï botte en touche ses accusations.
La plupart du temps, les patrons disent la vérité quand il y a un contentieux. Mais il faut reconnaître aussi que certains créent des problèmes juste pour renvoyer leur bonne. Les filles ne sont pas toujours exemptes de tout reproche. Quand tu vois une fille se dépigmenter, faire des piercings et se comporter de manière extravagante et autre, tu sais qu'elle ne veut pas être une simple bonne. Mais elle a des projets pas clairs. Mais il faut reconnaître que ce n'est qu'une minorité à vrai dire.
Même si les abus sont nombreux, le secteur est bel et bien réglementé comme nous l'explique Elhaj Ahmad Diam, juriste consultant.
Le secteur des domestiques ou agents de maison est réglementé. C'est juste un arrêté ministériel. Il faut comprendre que c'est une législation que le Sénégal a ratifiée de par la Convention des Nations Unies à son article 189. Cette même arrêté aussi a prévu les conditions salariales qui varie entre 40 000 et 50 000 francs. En plus de ce salaire, l'agent domestique aussi doit bénéficier de la part de son employeur une prise en charge médicale et des autres avantages en faveur du travail, parce que c'est un travail au sens du terme, au sens du code du travail, ils sont considérés comme des travailleurs.
Entre pression, surcharge de travail, renvoi sans motif et abus sexuels, les femmes de ménage espèrent qu'un coup de balai sera fait sur la législation pour mieux défendre leur statut. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Avoir un regard sans complaisance sur le passé et se tourner vers un avenir de lumière, c'est le principal message contenu dans le spectacle dénommé Traces, discours aux nations africaines. L'homme de théâtre burkinabé Étienne Minungu, qui interprète magistralement le texte du philosophe sénégalais Felwine Sarr, était en tournée américaine, tournée qu'il a terminée la semaine dernière à New York. Abdulrahman Dia était dans la salle, suivant son reportage.
Un public du Hebron's Art Center, conquis par les paroles fortes, éloquemment rendues par le dramaturge et acteur burkinabé Étienne Minungu, bercé par la musique du multi-instrumentiste Simon Wincé. Trace, discours aux nations africaines, s'adresse aussi bien aux Africains qu'aux Occidentaux, comme l'explique Étienne Minungu.
Quand on joue en Afrique, évidemment, c'est un moment très très fort, parce que la jeunesse africaine sait très bien quels sont ses problèmes, quelles sont ses espérances et ses désirs. Et cerne bien la situation. En Europe, quand on le joue aussi, on révèle aussi une partie de l'histoire essentielle qui n'est pas racontée, à savoir que non, l'Afrique a fait l'histoire du monde. Contrairement à ce que Sarkozy a pu penser à Dakar en disant que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, au contraire, l'Afrique a été le moteur de l'histoire. Le capital n'a pas pu se construire sans l'esclavage. La révolution industrielle n'a pas pu se construire sans le commerce triangulaire.
Cela dit, il ne s'agit pas pour les auteurs de Traces de rester figés dans le passé.
Il faut regarder l'histoire avec ses fêlures, ses blessures, mais il faut regarder aussi l'avenir. Et ne pas se complaire dans le passéisme, dans le passé. Notre façon de regarder le passé ne nous amènera pas à creuser notre sillon pour l'avenir.
Ce texte, qui s'adresse surtout à la jeunesse africaine, n'épargne pas les dirigeants du continent.
Les élites politiques, intellectuelles, dans leur capacité de prédation des ressources qui empêchent d'investir dans l'éducation, dans la formation, dans l'emploi des jeunes, ça aussi c'est une plaie contemporaine. Et l'appel à cette insurrection positive, cet élan pour changer le devenir de la jeunesse africaine, elle est positive et ça se sent dans le texte.
La tournée américaine d'Étienne Minungu s'est tenue au même moment que la 77e Assemblée générale de l'ONU. Son spectacle adresse les problèmes africains sous un angle artistique empreint de réalité.
Mais voilà, parce que je pense que sur la tribune des Nations Unies, c'est toujours les mêmes phraséologies convenues. Ici, c'est une parole poétique, philosophique, politique.
Vous vous rendez compte de la...
Une manière de faire entendre un autre son de cloche sur les réalités du continent, un continent qu'il veut résolument tourner vers l'avenir.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedouya, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou. À la console, Jonah Cummings. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.